Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Alexandra Candilonguet. À la technique, Jérémy Kaufmann.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Après avoir assisté cette semaine au procès du capitalisme, nous vous proposons, comme chaque vendredi, un débat d'actualité économique. Débat qui nous entraîne aujourd'hui dans le dédale des grandes institutions financières internationales. Le FMI et la Banque mondiale, créées en 1944 par les accords de Bretton Woods, peuvent-ils enrayer le ralentissement de l'économie mondiale ? Les inquiétudes grandissent alors que la récession guette. En cause, les conflits commerciaux qui ont mis en lumière l'état de quasi-mort clinique d'une autre institution, l'OMC. Alors l'OMC est-elle condamnée à disparaître sous les assauts de l'administration Trump ou peut-elle être réformée ? Quel rôle le FMI et la Banque mondiale peuvent-ils encore jouer ? Et faut-il inventer une nouvelle coopération internationale ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. À 14h50, on retrouvera la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Et pour parler des nouveaux défis qui attendent les grandes institutions économiques mondiales, trois invités autour de la table. Bonjour Marie-Clouis.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à Sciences Po Grenoble. À vos côtés, Jean-Marc Sirouen. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine. Et enfin, Dominique Plion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'économie financière à l'Université Paris 13 et membre du conseil scientifique d'Attac France. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
I thought of my favorite Russian poet, Alexander Pushkin.
Je pense à mon poète russe préféré, Alexandre Pushkin. Le souffle de l'automne commence à glacer la route, écrit-il. Et c'est malheureusement de circonstance, compte tenu de la perspective mondiale. Pour cette année et l'an prochain, nous anticipons un ralentissement de la croissance globale. 3% en 2019, 3,4% en 2020. Dans les deux cas, il s'agit d'une dégradation par rapport aux prévisions que nous avions communiquées en avril. Près de 90% de la population mondiale est concernée par cette baisse de la croissance. Toute l'économie mondiale connaît actuellement un ralentissement généralisé. Les fractures causées par le commerce, l'incertitude entourant les tensions géopolitiques, ainsi que le Brexit freinent la croissance. Ils créent des risques sur la route commune où nous avançons. Ils nous ralentissent.
Kristalina Georgieva, la nouvelle directrice du Fonds monétaire international, qui a remplacé le 1er octobre Christine Lagarde. Alors, on va commencer par un premier tour de table sur ce ralentissement de l'économie mondiale. On l'a entendu, le FMI a encore revu ses prévisions de croissance à la baisse. 3% de croissance en 2019. Il y a lieu de s'inquiéter, Jean-Marc Sirouen ?
S'inquiéter, pas vraiment. 3%, ça reste relativement élevé. On n'est pas en récession comme on pouvait l'être dans les années 2008 ou 2009. Les locomotives, il n'y en a plus aujourd'hui. Longtemps, la Chine a joué le rôle de locomotive. Elle n'est plus locomotive et personne d'autre pour l'instant ne la remplace. Et le ralentissement s'explique en grande partie par le ralentissement chinois et l'absence de relais qui entraîne une baisse ou une stagnation du prix des matières premières, ce qui crée des problèmes aux pays producteurs de matières premières, etc. Donc, des effets en chaîne de ce type.
C'est tout de même le rythme le plus faible, Dominique Plion, depuis la crise financière de 2008-2009.
Oui. Personnellement, je ne le vois pas uniquement comme un phénomène conjoncturel, c'est-à-dire provisoire. Je pense que nous sommes dans un moment important, un tournant, une crise de la mondialisation qui a fonctionné jusqu'avant la crise et qui, cette crise se poursuit aujourd'hui. Je pense qu'il y a une crise des modèles de développement fondés sur les exportations, dont la Chine était le champion. Mais pas que la Chine, l'Allemagne par exemple, aussi en Europe. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser nos modèles, repenser nos façons de voir, nous les chercheurs, mais aussi les politiques en particulier, parce que ces modèles-là sont des modèles extrêmement qui ne pouvaient pas durer, ne pouvaient pas être durables. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il y ait un ralentissement, mais que aussi que les moteurs de la croissance dont parlait Jean-Marc Sirouen ne soient pas uniquement des pays locomotives, mais des marchés intérieurs. C'est-à-dire que la Chine, d'ailleurs, est en train d'essayer d'évoluer dans ces directions, c'est-à-dire d'essayer de développer, d'avoir un développement plus équilibré entre la part qui correspond aux exportations comme moteur, mais aussi la part du marché intérieur, et pour un pays comme la Chine qui est immense. Donc il y a des voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir et à repenser peut-être notre vision de la mondialisation.
Donc ce ralentissement mondial est aussi le signe de grandes mutations qui sont à l'œuvre, Marie-Claude.
Oui, je pense que ce qu'on entend dans le discours aussi de la nouvelle directrice générale, c'est un changement de logiciel aussi de ces institutions qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de croissance, mais de plus en plus, il y a une reconnaissance, y compris par des institutions qui n'en parlaient pas tant que ça il y a encore quelques années, d'une croissance qui tienne compte des inégalités, d'une croissance qui tienne compte du réchauffement climatique, d'une croissance qui tienne compte aussi des transformations technologiques, des migrations. Donc ça, c'est problématique pour ces institutions parce que elles doivent trouver un moyen de réajuster leur périmètre d'intervention en restant dans leur mandat, en restant aussi dans ce qui a fait l'histoire de leur intervention et de leur légitimité. Et elles doivent aussi apprendre à travailler davantage ensemble avec d'autres organisations, notamment l'ONU, l'Organisation internationale du travail, dans un cadre un peu plus cohérent dont on aura sans doute l'occasion de reparler.
On va parler de ces différentes institutions et je voudrais qu'on commence par s'intéresser d'abord au Fonds monétaire international, puisqu'on a commencé avec Kristalina Georgieva. Son objectif aujourd'hui, c'est de résoudre notamment les conflits commerciaux. Jean-Marc Sirohen, c'est vraiment l'une de ses priorités, l'une des priorités de ce mandat qu'elle vient de débuter.
Pas tellement les conflits commerciaux. Les conflits commerciaux sont plutôt de la responsabilité de l'Organisation mondiale du commerce. Là, il s'agit, et la principale mission...
Elle a parlé de faire pression, en tout cas, sur les pays qui pouvaient avoir des velléités protectionnistes, comme les États-Unis.
Oui, enfin, les pressions que peut faire le FMI sont relativement limitées. Hein. D'ailleurs, un des problèmes du Fonds monétaire international, c'est que tout ce que peut dire et proclamer le Fonds monétaire international, on n'en tient pas tellement compte. Hein. Le Fonds monétaire international plaide pour une relance budgétaire, notamment en Allemagne. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose se passer. Non, la principale fonction importante du Fonds monétaire international, c'est d'éviter les crises systémiques qui sont dues non pas forcément à une crise financière au sens strict, c'est-à-dire au sens de crise sur les marchés financiers ou dans le secteur bancaire, où le FMI n'intervient pas pratiquement, mais des crises des finances publiques ou des crises de balance de paiement ou des crises de change pour ces pays.
C'est vraiment une mission qui est la sienne depuis sa création en 1944.
Oui, plus ou moins. Sa mission en 1944, c'était de sauvegarder le système monétaire de Bretton Woods qui s'est effondré en 1971. Donc nécessairement, ces missions ont été renouvelées depuis. Et depuis, effectivement, c'est cette mission-là. C'est-à-dire que autrefois, le FMI intervenait pour sauver le système monétaire de Bretton Woods. Là, le FMI intervient pour sauver, alors bien ou mal, c'est un autre débat, pour sauver les pays qui n'arrivent plus à payer leurs fonctionnaires ou qui n'arrivent plus à financer leurs importations.
Dominique Pillon, sur ce rôle du FMI qui a évolué et peut-être sur cette personnalité de Kristalina Georgieva, c'est la première fois que le FMI est dirigé par quelqu'un qui vient d'un pays classé par le FMI comme émergent ou en développement, la Bulgarie.
Tout à fait, oui. Alors, Madame Kristalina Georgieva vient de Bulgare, en effet, et avant était directrice à la Banque mondiale. Donc elle est passée de la Banque mondiale au Fonds monétaire, qui sont deux des institutions créées au lendemain de la guerre, en 1944, par les accords de Bretton Woods. Voilà, et donc je pense qu'elle va reprendre ses missions du Fonds monétaire international. Et je suis d'accord avec ce que disait Jean-Marc Sirohen sur la question aujourd'hui, le majeur, c'est d'éviter une nouvelle crise systémique. Le problème, c'est qu'il y a un manque de visibilité, de mon point de vue, sur ce qu'est la stratégie du Fonds monétaire. D'un côté, le Fonds monétaire est là pour aider, comme vous l'avez dit, les pays qui ont des problèmes de balance de paiement, des problèmes de financement, leur budget, etc. Mais en même temps, c'est un organisme qui a imposé un plan absolument incroyable et incohérent, à mon avis, à l'Argentine, qui est d'ailleurs un échec. C'est-à-dire qu'elle a à la fois donné un prêt, le plus gros prêt de l'histoire du FMI, je crois, de 57 milliards de dollars à l'Argentine, mais en contrepartie avec une cure, un plan d'ajustement, comme on l'appelle souvent, tout à fait violent, avec des conséquences économiques, sociales. Vous parliez tout à l'heure d'inégalités, de misère sociale, de pauvreté qui se sont aggravées, avec un échec aussi sur les indicateurs macroéconomiques, puisque l'inflation est repartie à la hausse, par exemple. Et donc, le problème du Fonds monétaire aujourd'hui, c'est qu'il a une doctrine qui n'est pas adaptée ou qui se cherche, c'est moins qu'on puisse dire, par rapport aux grands enjeux du moment et par rapport aux pays qui sont le plus en difficulté.
Et cela alors que le cadre théorique du FMI a tout de même beaucoup évolué au cours des dernières années. Avant d'y venir, un mot peut-être sur le cas de l'Argentine que soulève ici Dominique Plion, qui est effectivement très intéressant à l'heure où les élections vont arriver dans peu de temps. Quel rôle justement le FMI a joué dans la crise qui secoue aujourd'hui l'Argentine? Marie-Clouis, est-ce que vous diriez vous aussi que c'est un échec de cette politique?
Alors, c'est considéré comme un échec de manière générale, mais après, ce qu'il faut, le point sur lequel je voulais insister par rapport à l'Argentine, c'est que c'est assez symptomatique de la crise de légitimité dans laquelle se trouve le FMI, à savoir qu'une des raisons aussi pour lesquelles le plan du FMI en Argentine a été critiqué, c'était l'insuffisante prise en compte aussi, tout simplement, des priorités, des préoccupations du gouvernement argentin, qui du coup a essayé aussi de déplacer un peu le débat et d'aller porter cette question dans un autre forum qui est l'ONU, notamment l'Assemblée Générale des Nations Unies, où là justement la représentation de l'Argentine et des pays émergents de manière générale est mieux assurée, puisqu'on a une représentation égale, un pays chaque pays vaut une voix, ce qui n'est pas le cas au FMI.
Et revenir donc, effectivement sur les quotes-parts voilà. Qui répartissent le pouvoir au sein du FMI.
Voilà, et donc je pense qu'au-delà de la question du diagnostic erroné, ou en tout cas des problèmes qu'il y a pu avoir en termes de diagnostic économique qui a été fait en Argentine, ce que ça a soulevé aussi, c'est encore une fois cette crise de légitimité du FMI par rapport aux pays émergents. De ce point de vue-là, la nomination de la nouvelle directrice générale, ça peut être aussi intéressant en termes de signal qu'on veut aussi envoyer sur l'idée que le FMI ne serait pas uniquement qu'un club de riches, ce qui est clairement la critique la plus souvent proférée à l'encontre de cette institution.
Il y avait une nécessité, Jean-Marc Thirouen, d'envoyer un signal à l'égard des pays émergents, et c'est passé notamment par la nomination de Kristalina Georgieva, comme le disait Marie-Clouis.
Oui, bien sûr. Alors, dans le FMI, traditionnellement, c'est toujours un Européen. Donc, ça a été commode de trouver une Européenne appartenant à un pays émergent.
Il y a eu, je crois, 5 Français.
Il y a eu beaucoup de Français, je ne sais plus si... Oui, à peu près 5, oui. Donc, ça a effectivement souvent été des Français ou des Françaises qui dirigeaient le FMI. Ça, c'est dû à des raisons historiques très anciennes qu'on ne peut pas développer ici. Les États-Unis se conservant la présidence de la Banque mondiale traditionnellement. Donc, je dirais heureusement qu'il y a eu extension de l'Union européenne à des pays émergents, ce qui permet de nommer quelqu'un d'un pays émergent. En dehors de cela, à chaque crise du FMI, et des crises du FMI, il y en a pratiquement depuis que le FMI a été créé, et surtout à partir des années 70-80, la question de la représentation des pays en développement, qui n'ont pas tous adhéré au FMI au départ. Hein. Ils ont adhéré pour la plupart après leur indépendance et bien après leur indépendance. Donc ça a toujours été remis en cause. C'est-à-dire qu'on reste encore assez largement sur des parts, des quotas, une organisation qui est celle du traité de Bretton Woods.
Et alors, pourtant, il y a une volonté de réformer ces quotes-parts qui est déjà ancienne. Alors, pour expliquer un peu aux auditeurs, ces quotes-parts déterminent les voies dont un État dispose dans les décisions, sa contribution financière et aussi l'aide dont il peut bénéficier. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, Dominique Plion, c'est que les tentatives de réforme se heurtent à la résistance des États-Unis.
Oui, alors là, je serais un peu moins critique peut-être. Je pense qu'il y a eu une évolution avec l'arrivée de grands émergents comme la Chine, par exemple, parmi les principaux actionnaires et membres du Fonds monétaire. Donc ça, c'était quelque chose qui est un progrès. Je pense que ceci fait que le Fonds monétaire, si l'évolution continue, parce que bien entendu, comme vous l'avez laissé entendre, elle n'est pas terminée, qui avant se comportait essentiellement comme le défenseur des pays créanciers, c'est-à-dire des pays les plus riches, a été obligé de changer son comportement et avoir un point de vue un peu plus équilibré. Mais dans le cas, je reviens sur l'Argentine, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, et je parlerai d'un autre pays en Europe, la Grèce, c'est-à-dire que le Fonds monétaire, qui pourtant à plusieurs moments a montré une attitude plus ouverte que les gouvernements européens, dont l'Allemagne, par rapport à la dette grecque, par exemple, a essayé de pousser pour un rééchelonnement, c'est-à-dire une restructuration de la dette grecque, pour alléger le poids de la dette sur le pays, sur la Grèce. Et il n'est pas arrivé parce qu'il y avait une telle résistance du côté des pays européens, dont le premier desquels l'Allemagne, mais la France n'a pas bien joué son rôle de contrepoids éventuellement dans ce domaine, voilà. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est en termes de gouvernance, ces dirigeants dont nous parlons, en fait, n'ont pas beaucoup de pouvoir. Je pense que en ce qui concerne le Fonds monétaire comme la Banque mondiale, c'est les grands pays qui sont derrière. Et en réalité, que ce soit Madame Lagarde ou Madame Georgina Kristeva, je pense que ces gens-là, s'ils sont nommés, c'est parce qu'ils plaisent à tout le monde. Et en réalité, d'ailleurs, on loue leur capacité à faire du consensus. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de pouvoir.
Et alors justement, les États-Unis disposent toujours de 16,5%, je crois, des droits de vote.
Veto, entre autres.
Marie-Claude, pour comment expliquer ce blocage des États-Unis à ces réformes qui sont en discussion depuis longtemps déjà?
Alors déjà, on peut peut-être revenir justement quand même, je pense, sur les raisons aussi qui président à ce qui peut apparaître de l'extérieur comme étant un système de représentation très déséquilibré. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser, et notamment parce que dans les organisations internationales, la règle classique, c'est qu'un État égale une voix. Donc il y a cette espèce de d'égalité juridique, mais qui n'existe pas non plus. Il faut pas se voiler la face. Hein. On a toujours plus de pouvoir quand on est un grand contributeur au budget que quand on l'est moins. L'idée du FMI, c'était d'une certaine manière d'essayer de donner une représentation aussi fidèle de l'économie mondiale. C'est-à-dire que on allait donner un maximum de pouvoir à ceux, de pouvoir politique, à ceux qui contribuaient effectivement le plus, d'une certaine manière, au redressement des crises et qui abondaient en fait l'économie mondiale.
Sauf qu'entre-temps, la Chine a émergé.
Il y a eu une révision de ces quotas qui ont vu augmenter les quotas et donc le pouvoir politique de la Chine.
Révision en 2010 qui n'a été validée par les États-Unis qu'en 2016.
Oui, et il y a toujours d'ailleurs une réforme qui n'est toujours pas validée encore à ce jour par les États-Unis. Qui vise pas uniquement à la révision des quotas, mais qui vise aussi à une augmentation des fonds du FMI. Donc, d'une manière générale, je dirais que ce à quoi on assiste ici, sachant que c'était une réforme qui avait été plutôt populaire sous le gouvernement Obama. Donc, on voit aussi les effets des changements de gouvernement sur les réformes à l'international. Ce qu'on voit ici aussi, c'est ce qui se passe au FMI et cette difficulté à faire aboutir cette réforme, c'est aussi l'attitude ces dernières années générale des États-Unis par rapport au multilatéralisme. Et c'est pas spécifique, d'une certaine manière, je banaliserai un peu le FMI dans le paysage des organisations internationales.
On va voir que dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, les États-Unis font également barrage. Mais d'abord un mot, Jean-Marc Sirouen, sur ce rééquilibrage en cours au sein du Fonds monétaire international, rééquilibrage partiel, vous diriez?
C'est un rééquilibrage partiel parce qu'il ne peut pas y avoir des chocs qui se fait d'ailleurs essentiellement non pas au détriment des États-Unis mais au détriment de l'Europe qui, c'est vrai, était très surreprésentée auparavant. On peut d'ailleurs peut-être se poser la question de savoir quelle est la bonne représentation, sinon de l'Union européenne, du moins de la zone euro ou FMI, puisque pour l'instant chaque pays compte séparément et vote séparément au Fonds monétaire international. Donc un rééquilibrage, oui. Demain, il faudra faire de la place, plus de place aussi à l'Inde. On en a fait un peu plus au Mexique. Enfin, d'autres pays vont arriver. Alors, ces 16 et quelques pourcents, je dirais, c'est un peu un tabou. Les Américains n'accepteront jamais de tomber en dessous de 15% parce que ça leur ferait perdre leur droit de veto sur les grandes décisions du Fonds monétaire international. Je voudrais également citer... Pour approfondir ce qu'a dit à la fois Dominique Plion et Marie-Éque Louis, que certes, il y a Obama, certes, il y a Trump, certes, il y a les chefs d'État, mais il y a les parlements et les congrès. Et le congrès américain, c'est lui, c'est surtout lui.
C'est le congrès
lui,
américain qui a validé en 2016.
Voilà, qui fait obstacle, qui gêne un peu plus, en l'occurrence, que le président Obama. Alors, en ce qui concerne Trump, je dirais que c'est presque devenu l'inverse. Hein. C'est davantage lui qui bloque peut-être que le congrès. Mais historiquement, le congrès a toujours un poids important et un pouvoir de blocage important.
Et c'est essentiel, cette question des quotas, puisque derrière cette question, il y a celle des contributions financières. En l'occurrence, samedi dernier à Washington, les pays membres du FMI se sont au moins entendus pour sécuriser les ressources financières du fonds. Elles sont maintenues à un niveau d'environ 1400 milliards de dollars. Dominique Plion, certains s'inquiétaient que le FMI ne dispose pas suffisamment de fonds propres et perde sa capacité d'intervention.
Oui, alors si on fait un tout petit peu d'histoire en venant en arrière à la crise de 2007-2008, ou en 2009 exactement, au G20 de Londres, en avril 2009, il a été décidé d'augmenter sérieusement, doubler, je crois, les ressources du Fonds monétaire international, parce que face à la crise qui commençait, les pays sentaient bien qu'il y avait des besoins de ressources tout à fait importants. Et le Fonds monétaire qui était en perdition à cette époque, qui était en marginalisé, beaucoup de pays voulaient régler leurs problèmes en bilatéral, d'une manière régionale, etc., sans passer par le Fonds monétaire. Bon, le Fonds monétaire a repris du poil de la bête. Et maintenant que la crise financière n'est pas tout à fait terminée, la crise continue, il est bien d'avoir des ressources, hein, en prévision d'un éventuel choc. Le Fonds monétaire, comme d'autres organisations, a tiré la sonnette d'alarme. Je pense par exemple aussi à la Banque des règlements internationaux, a tiré la sonnette d'alarme sur le fait qu'il y a des indicateurs qui évoluent de manière très dangereuse en ce moment, en particulier au niveau de l'endettement mondial. C'est-à-dire que soit l'endettement public, l'endettement privé, ménages et entreprises.
En particulier à cause des taux bas.
À cause des taux bas, mais aussi à cause de la crise, tout simplement, un ralentissement de l'activité, donc des entreprises en difficulté qui s'endettent, etc. Et donc, là, aujourd'hui, on est face à des risques importants de rebond d'une crise, notamment s'il y a un problème sur la dette, et notamment, aujourd'hui, on parle beaucoup du marché obligataire international qui est dans une bulle. Et comme toutes les bulles peuvent finir par imploser, donc il y a vraiment un danger. Et donc l'idée, c'est de préparer une éventuelle secousse dans le système financier. Je termine en disant qu'il y a un autre domaine d'activité où le Fonds monétaire ne peut pas grand-chose, mais qui est pourtant très préoccupant, c'est toute la partie cachée, la banque de l'ombre, le shadow banking, comme on l'appelle, qui aujourd'hui s'est développé considérablement partout, aux États-Unis, en Europe, en Chine. Et là, il y a des préoccupations. Et le Fonds monétaire ne peut pas grand-chose dans ce domaine. Donc on voit bien qu'il y a des limites importantes face à
l'action de ces institutions.
Voilà, à l'action de ces institutions.
Et en même temps, le rôle du FMI est de plus en plus important, Jean-Marc Sirouen, à cause de toutes ces raisons qu'a détaillées Dominique Pillon.
Oui, je voudrais quand même préciser qu'une crise financière et bancaire comme celle qu'on a eue en 2007-2008, quelles que soient les ressources du FMI, le FMI est totalement inopérant. D'ailleurs, c'est pas lui qui est intervenu. Le FMI n'est pas intervenu pendant la crise de 2007-2008. Ce sont les banques centrales nationales qui sont intervenues. Donc il y a une sorte de renationalisation des politiques de lutte contre la crise.
Et qui a donné un tout nouveau rôle aux banques centrales qu'elles n'avaient pas prises.
Qui se sont montrées assez disruptives dans leur choix politique. Le FMI n'a commencé à intervenir qu'avec la crise de l'euro, qui là était une crise relativement classique, qui rentrait dans les cordes du FMI, c'est-à-dire une crise des finances publiques ou de la balance des paiements des pays. Donc augmenter les ressources du FMI dans la perspective d'une grosse crise financière de type 2007-2008, ça ne me paraît pas forcément opportun.
Vous parlez du rôle du FMI dans l'Union européenne, en particulier Dominique Pillon soulevait la question de la Grèce. En 2013, Olivier Blanchard, qui était alors économiste en chef du FMI, a reconnu que l'impact des mesures d'austérité avait été largement sous-estimé et que ces mesures avaient pu aggraver la crise. Et 6 mois plus tard, le Fonds a même fait son mea culpa au sujet de la politique appliquée à la Grèce depuis 2010. Vous diriez qu'on assiste, Marick Louis, à un véritable muet idéologique du FMI depuis quelques années ?
Alors, le mea culpa du FMI, c'est un petit peu comme les crises, hein. C'est récurrent dans l'histoire de cette institution internationale, mais c'est aussi une bonne chose d'une certaine manière, parce qu'effectivement, à chaque nouvelle crise, le FMI aussi a reconnu, notamment dans le cadre des crises asiatiques, dans le cadre des plans d'ajustement structurel, que ces fameux chocs d'austérité, justement, et les diagnostics et les politiques n'avaient pas toujours été les meilleurs, ce qui, du coup, a aussi ouvert une fenêtre d'opportunité, hein, au début des années 2000. Et notamment lorsque Dominique Strauss-Kahn en avait été le directeur général, pour essayer de faire des partenariats aussi avec d'autres institutions qui ont meilleure réputation sociale, en tout cas à l'international, donc comme l'Organisation internationale du travail. Et c'est là qu'on a vu le FMI aussi se lancer dans toute une réflexion sur les socles de protection sociale, sur comment est-ce qu'on pouvait davantage tenir compte du facteur humain dans les programmes de développement. Et si on n'en a pas vu forcément, en tout cas, les effets sur le terrain, ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique qui se met en place entre les secrétaires, souvent à l'ombre des États, hein, c'est pas forcément les États qui sont moteurs, mais entre les leaders, les chefs de ces organisations internationales, pour essayer d'amorcer un dialogue et d'aller dans le sens de cette plus grande cohérence des politiques du système multilatéral.
Mais comment ça se fait alors qu'on n'en voit pas les effets sur le terrain, hein, Jean-Marc Sirouen, et qu'on ne voit pas effectivement des mesures, enfin une moindre imposition de mesures d'austérité? On peut aussi citer le cas de l'Équateur dans l'actualité.
Vous savez, hein, lorsque un pays fait appel au Fonds monétaire international, c'est qu'il a plus d'argent, donc il a besoin d'impôts, c'est qu'il n'exporte plus, donc il y a un problème de compétitivité. Donc de toute façon, les remèdes du FMI ne peuvent pas être des remèdes qui ne fassent pas un peu mal. Alors ils se font certainement souvent trop mal, ils sont peut-être mal ciblés, mais il y a aussi d'énormes difficultés de la part du FMI à mettre en concordance son discours qui est effectivement très souvent remis en cause et des pratiques qui sont les mêmes depuis le consensus de Washington il y a une trentaine d'années. Donc c'est toujours les mêmes remèdes qui sont apportés.
Marie-Chloé.
Je voulais juste ajouter aussi là-dessus, c'est que le FMI aussi, son intervention d'une certaine manière, et par rapport à celle des banques centrales que Jean-Marc Sirouen évoquait, c'est une intervention exigeante parce qu'elle se solde aussi, et ça a d'ailleurs été souvent critiqué, d'une conditionnalité, c'est-à-dire que le FMI ne fait pas juste que donner des fonds, aider, prêter de l'argent, mais il demande aussi un certain nombre de réformes. Et donc ça, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. C'est un élément aussi qui explique pourquoi il y a pu aussi avoir un moindre recours au FMI, parce qu'il y a aussi ces conditions politiques qui vont avec le système d'octroi de prêts.
Mais on peut se demander si le FMI a pris ses distances avec l'orthodoxie libérale, dans le discours au moins, Dominique Plignon, sinon dans les actes.
Pas du tout, je pense qu'il a absolument pas changé. Il y a eu, à un moment donné, Olivier Blanchard, qui est un économiste réputé, qui a reconnu dans un article publié par le Fonds monétaire que les multiplicateurs budgétaires, c'est-à-dire l'effet de réduire les dépenses publiques, avaient un effet plus puissant que ce qu'on avait pu penser. Mais c'est tout. Ça n'a pas changé fondamentalement la logique des plans, notamment structurels, les plans d'ajustement. Donc dire que le Fonds monétaire a changé d'idéologie ou a changé de politique, absolument pas. Je crois que c'est ce qui se passe en Argentine, en Équateur, le démontre aujourd'hui. Je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Marc Sirouen, parce que le Fonds monétaire, en effet, n'a pas besoin. Je suis d'accord avec l'idée que son intervention, les ressources supplémentaires, ne sont pas ça qui vont aider à éviter une crise. Simplement, lui, son intervention, c'est d'intervenir sur les pays, d'accord, et non pas globalement. Mmh. Et donc, l'idée, ça serait qu'il intervienne individuellement sur les pays les plus en difficulté, mais sans imposer les cures d'austérité qui sont quand même, il faut le voir, qui ont des effets redistributifs absolument considérables sur les populations locales. Alors même que on pourrait imaginer d'autres politiques. Donc il y a quand même derrière une idéologie, on peut appeler idéologie néolibérale, qui existe depuis le consensus de Washington et qui n'a pas du tout changé malgré quelques déclarations. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Par contre, les banques centrales, c'est totalement ambivalent. Elles ont fait éviter un effondrement du système bancaire international, très vraisemblablement, mais elles ont aussi préparé probablement la prochaine crise en injectant des milliers de milliards de liquidités dans l'économie mondiale qui aujourd'hui alimentent les bulles spéculatives. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement dangereuse et, comme disait un de nos collègues économistes, les banques centrales sont des pompiers pyromanes. Et on est dans une situation, voilà. Donc c'est pour
ça
qu'on
constate, c'est tout de même que le FMI est traversé d'un certain nombre de contradictions, mais c'est sans doute l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui connaît aujourd'hui la crise la plus profonde. On va en parler dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
Comment te lo digo que no puedo más con este olvido. Para este adiós, asomo la cabeza para ver el sol. Siempre vas a estar, siempre estás vida. Siempre vas a estar, siempre, 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 siempre estás.
Thank you.
Siempre Estás du groupe argentin La Yegros sur France Culture de Entendez-vous l'écho. Marie-Louise, Jean-Marc Sirouen et Dominique Plion sont toujours avec nous pour parler du rôle que peuvent encore jouer les grandes institutions financières dans l'économie mondiale. On va s'intéresser maintenant à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui traverse une crise profonde. Peut-être est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler, Jean-Marc Sirouen, dans quel contexte émerge l'OMC et quelle est à l'origine sa mission ?
C'est une histoire compliquée, puisque au départ, il y avait une charte assez ambitieuse, un traité assez ambitieux, qui était le charte de La Havane, qui justement n'a pas été ratifié par le Congrès
américain.
Donc, en 1947, a été remplacé par ce qui n'était pas une organisation internationale, mais un simple accord qui était le GATT. Et il faut attendre 1995 pour que soit créé l'OMC qui intègre le GATT. Et qui est cette fois-ci une véritable organisation internationale, mais qui continue à fonctionner sur les mêmes règles que le GATT, notamment sur le consensus. La règle du consensus qui continue à être appliquée, même si les statuts de l'OMC permettraient de s'en passer.
Et donc l'objectif, c'est véritablement de régler un certain nombre de conflits commerciaux, notamment, et ce qu'on voit avec la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine, c'est le signe d'une défaite de l'OMC, d'un recul de son influence, Marie-Louise ?
Alors, recul de son influence, je ne sais pas, parce que c'est quand même aussi le signal de l'importance aussi de cet organe de règlement des différends, qui est aussi la grande innovation, en fait, de l'Organisation Mondiale du Commerce par rapport aux accords du GATT qui le précédaient. C'est que maintenant, il y a quand même un organe permanent, rattaché donc au secrétariat, qui peut aussi trancher, enfin avoir...
C'est une sorte de tribunal.
Oui, on va dire ça comme ça. C'est une sorte de tribunal et qui, justement, dont certains d'ailleurs aimeraient bien le voir investi de fonctions un petit peu plus large pour aller sur des questions qui ne seraient pas uniquement des questions relatives à la concurrence, mais qui seraient aussi des questions relatives à comment est-ce qu'on peut intégrer la question de l'environnement, la question sociale dans le cadre des accords commerciaux. On n'en est pas du tout là, même si c'est un débat qui est toujours rampant. Mais
justement, cet organe, il va très mal, Marie-Louise, pardon de vous interrompre, mais oui. C'est tout de même dans ce tribunal qu'il y a la plus grande menace de paralysie complète, puisqu'il est normalement composé de 7 membres nommé par consensus, et les États-Unis bloquent systématiquement la nomination de nouveaux membres. Et en décembre, le 10 décembre précisément, Dominique Plion, il n'en restera plus qu'un. Donc là, on a vraiment le sentiment que l'OMC va vers sa disparition totale.
Oui, en tout cas, c'est un euphémisme de dire que l'OMC est dans une crise grave. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a eu en marge de l'OMC qui pratiquait des négociations multilatérales entre tous les pays membres, et bien la multiplication d'accords bilatéraux de libre-échange, qui sont donc une autre approche très différente et qui pose vraiment de gros problèmes, évidemment, dans les négociations internationales. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, est arrivé, évidemment, Donald Trump, qui a enfourché donc un peu une autre politique, une politique de guerre commerciale et de conflit plutôt que de négociation, et qui a évidemment remis en cause un peu la démarche antérieure.
Mais la crise était déjà là, puisqu'effectivement, depuis 2001, aucun nouvel accord global multilatéral n'avait été approuvé.
Exactement. Mais même le problème, c'est que aujourd'hui, il y a une crise aussi des accords bilatéraux, c'est-à-dire que l'ensemble des négociations pose problème. Et c'est là que je voudrais faire intervenir dans l'image, si je puis dire, ou dans le tableau, les différents acteurs. Il y a les gouvernements, mais il y a deux autres acteurs qu'il faut absolument prendre en compte. Gouvernement, organisation internationale, il y a les multinationales, qui sont quand même les acteurs dominants, de mon point de vue, de la mondialisation, et qui sont derrière les gouvernements, et qui font un lobbyisme très puissant. Et puis, il y a le mouvement social et citoyen, c'est-à-dire l'ensemble des ONG, des syndicats, etc., qui aujourd'hui se battent pour essayer de rendre plus justement ces accords, et qui, en effet, comme vous le disiez, cherchent à introduire d'autres normes, des normes environnementales et sociales. Alors même que les accords en négociation à l'OMC, comme des accords bilatéraux, s'intéressent à la suppression des obstacles au libre-échange, point barre, et ne s'intéressent pas vraiment à la mise en place de normes pour respecter les contraintes environnementales, les objectifs environnementaux, ainsi que les objectifs sociaux. Et là, il y a vraiment deux visions de l'organisation des échanges internationaux qui s'affrontent, et la crise vient aussi de là.
Mais est-ce que l'OMC est le lieu pour le lieu privilégié, Marie-Louise, pour imposer des normes environnementales, sociales plus importantes, sachant que, comme je disais, on a un contexte où les États-Unis ont l'air d'être prêts à prendre la responsabilité, peut-être, de donner le coup de grâce à cet organe de règlement des conflits.
Alors, il y a deux choses. D'une part, sur l'actualité vraiment du moment, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les attaques de Donald Trump à l'égard de l'OMC ont permis permis, d'une certaine manière, de faire sortir l'OMC de son rôle de pestiféré, d'une certaine manière, d'institution un peu détestée, parce que justement responsable aussi d'une mondialisation jugée effrénée, d'un libre-échange qui n'intégrerait pas du tout les préoccupations sociales et environnementales. Et à l'occasion de ces critiques, de ces attaques faites par les États-Unis à l'encontre de l'OMC, on s'est aussi rappelé de la valeur que peut avoir néanmoins l'existence d'une organisation multilatérale qui prenne en charge le commerce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette idée, est-ce que l'OMC est le meilleur lieu pour parler social-environnement ? Ça, c'est un débat qui a plus de 20 ans, qui a d'ailleurs divisé profondément les États dans les années 90, enfin juste après la création de l'OMC, entre ceux qui disaient qu'il faudrait justement introduire des normes sociales dans les accords commerciaux et tout simplement procéder à des rétorsions pour des États qui n'appliqueraient pas, qui ne respecteraient pas les normes, notamment les normes qui sont ratifiées à l'OIT. Sauf que ça a suscité une énorme division au sein des États et notamment des pays en développement qui voyaient là une forme de protectionnisme déguisé que souhaitaient leur imposer les pays industrialisés.
Donc ça a contribué à fragiliser l'OMC.
Ça a fragilisé l'OMC et surtout ça a fait qu'à partir de 96, grosso modo, on est revenu sur cette idée que le social se discute à l'OIT, l'environnement se discute
à l'Organisation internationale du travail.
À l'Organisation internationale du travail, l'environnement, on a le PNUE, on a l'ONU, on a d'autres enceintes et à l'OMC, on discute de commerce et seulement de commerce. Mais bon, c'est toujours un peu un jeu de dupes parce que il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits pareil, hein, un peu dans l'ombre par les secrétariats, justement des rapports sur les effets du commerce sur l'emploi, les effets du commerce sur le changement climatique. Donc tout le monde est conscient de cette question, mais au niveau intergouvernemental, ça ne bouge pas. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas remettre à l'agenda de sitôt, en tout cas pas au niveau international.
Et comment comprendre, Jean-Marc Sirouen, ce blocage de la part des États-Unis aujourd'hui, un blocage qui ne date pas d'hier, mais quel est l'intérêt des États-Unis dans le fait d'empêcher la nomination de nouveaux membres dans cet organe de règlement des différends ?
L'organe des règlements différents a été accepté un peu par force. C'est le président Clinton qui avait un peu forcé le Congrès pour faire accepter ce qui était assez inimaginable pour le Congrès, qui était qu'une organisation internationale puisse condamner les États-Unis. Alors, finalement, on revient à une tradition américaine qui est durcie par Donald Trump, mais qui n'est pas totalement nouvelle. Même les présidents Obama se faisaient un peu tirer l'oreille pour nommer les juges à l'organe d'appel. Non, le multilatéralisme n'est plus considéré par les États-Unis comme leur bénéficiant. Ce sont eux qui l'ont fondé, mais ils considèrent qu'ils sont globalement perdants, que l'organe de règlement des différends leur est quasi systématiquement défavorable. On voit bien que c'est pas le cas avec Airbus.
Et ben voilà, l'ironie de la situation, c'est que c'est tout de même l'Organisation mondiale du commerce qui a autorisé les États-Unis à imposer un certain nombre de sanctions.
Tout à fait. Ça montre bien par l'absurde que la conception de Trump est fausse, mais c'est vrai qu'en même temps, en France, lorsque on a été mis en difficulté par l'organe des règlements des différends, on l'a pas accepté très très bien non plus. Hein. On a aussi démonté à McDo il y a une vingtaine d'années, etc. Donc il y a une difficulté d'accepter assez général qu'une organisation internationale puisse autoriser, puisque c'est pas l'OMC qui prend les sanctions, mais autoriser un autre pays à prendre des sanctions.
C'est ce qui rend la réforme de l'OMC aussi compliquée, Dominique Pillon, parce que finalement, comment parvenir à un consensus alors que les grandes puissances s'accusent toutes de subventionner illégalement leurs industries ? C'est-à-dire qu'on reproche beaucoup à la Chine de le faire, mais les États-Unis le font, l'Union européenne le fait. Alors comment est-ce qu'on peut s'accorder dans un tel contexte ?
Je crois qu'il faut revenir à ce que tout à l'heure je mentionnais, c'est qu'il faut parler de tous les acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les gouvernements, il y a aussi des entreprises, des transnationales qui jouent un rôle extrêmement important et qui aujourd'hui poussent vers une certaine forme de négociation, un contenu des négociations, la suppression ou la modification d'un certain nombre, entre guillemets, d'obstacles au libre-échange qui nuisent à leur développement. Et donc les gouvernements, pour moi, à bien des égards, sont souvent le reflet principalement, et en Europe on le voit très clairement, hein, de ces grandes entreprises. Regardez par exemple ce qui se passe dans le domaine financier. Vous avez, que c'est un des domaines sur lesquels je connais le mieux, parce que j'y fais ma recherche, on voit très bien que là, les normes financières qui ont été décidées dans le cadre des accords qui ont été signés récemment, notamment avec le Canada, sont des normes qui sont très favorables aux grandes banques, aux grands acteurs financiers, parce que derrière les négociateurs, il y avait ces acteurs. Donc je pense qu'il faut faire attention quand on parle, il ne faut pas parler... Moi, je me méfie toujours des discussions qui résonnent en termes uniquement d'intergouvernemental. Il faut aussi penser aux différents types d'acteurs et notamment à ces acteurs-là qui sont dans l'ombre.
Alors, c'est important de le prendre en compte, mais je voudrais vraiment qu'on comprenne comment il est possible de réformer cette institution dont on parle aujourd'hui, qui est l'OMC. Quelles sont les propositions de réforme qui peuvent émerger et comment elles sont bloquées par cette question des subventions illégales appliquées par toutes les puissances, finalement, Marie-Claude?
Alors, je pense que là-dessus, Jean-Marc Sirohen sera plus compétent, mais ce que je pense montre aussi cette crise de l'OMC par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en regard avec cette question du FMI, où on avait vu que les États étaient inégalitaires, qu'ils ont des pouvoirs de décision qui sont ajustés sur leur puissance économique. C'est pas le cas à l'OMC. Enfin, on est sur un intergouvernemental plus classique, où là, en plus, c'est la règle du consensus qui prime. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, la question du blocage, elle est pas forcément liée à des inégalités de vote, à des inégalités dans la procédure. Elle est vraiment liée, je pense, aussi à la difficulté aussi que c'est assigné, la tâche que l'OMC s'est assignée, de faire déborder aussi les négociations sur des questions comme les services, à intégrer aussi d'une certaine manière beaucoup plus les pays en développement dans les négociations multilatérales. Je pense que on peut pas faire fi du nombre maintenant, enfin, et de la quasi-universalité des pays qui sont présentés, qui font que, pour les pays en développement, mettre des normes sociales dans des accords commerciaux, ça reviendrait pour eux à, selon eux, à ralentir leur croissance, à ralentir leur développement. Il y a quand même des intérêts qui, déjà sur le papier, sont assez divergents.
Avec des enjeux de sortie de pauvreté qui sont évidemment absolument considérables.
Parce que j'aurais peut-être une petite différence. Je pense que l'une des raisons de l'échec, par exemple, des négociations de Doha, c'est que des grands pays comme l'Inde...
Alors, il faut nous rappeler...
Doha, c'était le round de négociation qui a précédé, le dernier round, qui a bloqué, quoi, finalement, et qui n'a pas permis d'aboutir sur les négociations multilatérales.
Dans le cadre de l'OMC.
Dans le cadre de l'OMC, merci, oui. Je pense qu'une des raisons principales, c'est le fait que des grands pays émergents comme l'Inde, qui sont des pays agricoles, en grande partie, pas uniquement, puisque aussi des grands pays industriels, mais qui ont bloqué sur certaines négociations qui auraient défavorisé l'agriculture traditionnelle de ces pays-là. Et donc, je pense que c'est ça la difficulté. C'est lié à l'hétérogénéité des membres, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a un certain nombre de grands pays qui veulent imposer, par exemple, une agriculture productiviste, une agriculture sur des grandes surfaces, etc., qui n'est pas du tout celle qui est pratiquée dans un grand nombre d'autres pays, y compris parmi les plus grands, comme l'Inde, par exemple. Donc, je pense que la difficulté, c'est cette hétérogénéité. Et c'est pour ça que peut-être qu'il faut penser à des négociations qui prennent en compte davantage ces différences de structure, ces différences entre les pays. Et l'arrivée des pays émergents, comme l'Inde, par exemple, ou la Chine, est une bonne chose pour obliger les grands pays à prendre en compte ces différences.
Jean-Marc Sirohen.
Oui, je ne suis pas tout à fait en accord sur plusieurs points. D'abord, sur l'importance des lobbies. Ils existent, les lobbies. On les voit partout, ils sont très nombreux. Est-ce qu'ils sont aussi puissants qu'on le dit? Je suis pas complètement sûr, parce qu'ils sont en grande partie contradictoires. Les intérêts de l'automobile ne sont pas les mêmes que les intérêts de l'acier, les intérêts des producteurs de fromage ne sont pas les mêmes que les éleveurs. Donc je dis pas que ça s'annule, mais il faut prendre en compte, et on prend de plus en plus en compte quand même, les mouvements sociaux. On craint politiquement, on craint le populisme, on craint un tas de choses, ce qui fait que l'on intègre de plus en plus un certain nombre de domaines. Le problème est que l'OMC ne peut pas les intégrer, puisque c'est pas dans l'agenda de négociation. Et là, j'ai un petit désaccord avec Dominique Plion. C'est que dans les accords commerciaux bilatéraux ou entre régions, un certain nombre de ces points sont intégrés. Alors, on peut considérer que c'est bidon, que c'est de l'affichage, ce qui est sans doute un petit peu vrai.
Mais en tout cas, c'est plus... Il y a une volonté affichée de l'Union européenne de faire passer un certain nombre de normes sociales environnementales.
Pas que l'Union européenne, ouais. y compris des États-Unis, du moins les États-Unis. Avant Trump, ça serait plus le cas aujourd'hui. Dans le traité transpacifique, vous aviez des normes de travail qui allaient relativement loin. Alors après, pour les appliquer, c'est un autre problème. Donc il y a une part d'affichage que je ne sous-estime pas, alors qu'à l'OMC, il n'y a rien. Il y a beaucoup plus aujourd'hui dans les accords commerciaux bilatéraux qu'il peut y avoir à l'OMC. On peut dire la même chose sur l'environnement, on peut dire la même chose sur ces domaines-là. Et c'est dommage, parce que moi qui suis un partisan du multilatéralisme, je préférerais que tout ça, ça soit traité beaucoup plus sérieusement à l'OMC que dans les traités bilatéraux.
On parlait des enjeux de sortie de la pauvreté et du développement qui sont largement pris en charge par la Banque mondiale, également instituée par les accords de Bretton Woods en 1944. On a du mal à se rendre compte, Marie Théry, je voulais vous poser la question de la convergence idéologique qui peuvent exister entre ces différentes institutions financières dont on a parlé, FMI et OMC et Banque mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a une convergence qui existe ?
Alors, on a souvent coutume de dire que le FMI et la Banque mondiale sont un peu des institutions sœurs, aussi parce qu'elles ont été créées dans ce même contexte. C'est vrai qu'elles ont connu des évolutions qui étaient aussi assez semblables. Alors clairement avec une idéologie libérale, néolibérale assumée d'ailleurs, mais aussi avec les mêmes inflexions quand il s'est agi de devoir intégrer les problématiques de développement, les problématiques de pauvreté. La Banque mondiale est devenu quasiment, même au niveau des programmes de l'ONU, un des principaux financeurs hein, de tous les programmes qui visent à réduire, à éradiquer la pauvreté. Donc, de ce point de vue-là, le FMI et la Banque mondiale, je les mettrais ensemble. L'OMC a toujours, enfin, pour moi, est toujours quand même un petit peu à part parce que il s'agit quand même de traités de libre-échange, enfin, de commerce, de libre-échange. Et, je pense pas qu'on peut parler d'un alignement de l'agenda de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale. Aussi parce que l'OMC essaie de tenir une forme de bonne coopération aussi avec le cadre de l'ONU, comme le FMI aussi et la Banque mondiale. Donc, votre question est compliquée parce qu'on peut pas les homogénéiser tous. Ce serait vraiment beaucoup trop simpliste. Et surtout, il faut pas oublier que il y a vraiment aujourd'hui une tentative de rendre un peu plus cohérent, en respectant les différences, les mandats de chacune de ces organisations dans le cadre des objectifs du développement durable et enfin qui étaient précédemment les objectifs du millénaire pour le développement, et de voir comment chacune de ces organisations peut s'agencer.
On a parlé tout à l'heure de la directrice du FMI qui avait fait sa rentrée, et le directeur de la Banque mondiale également, c'est l'américain David Malpass. Alors deux questions à cela, Jean-Marc Sirouen, est-ce que l'arrivée de David Malpass peut changer quelque chose à cette institution, et plus globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de la Banque mondiale et de sa mission ? Comment se porte la Banque mondiale par rapport à l'OMC et au FMI ?
Je serais étonné qu'il se passe grand-chose, aussi bien au FMI qu'à la Banque mondiale. La Banque mondiale n'est pas la pire, je dirais, dans l'opinion publique, où il n'y a pas vraiment de crise de la Banque mondiale. Mais c'est vrai que la tâche de la Banque mondiale est relativement plus facile, que ça constitue à prêter de l'argent, avec une conditionnalité certainement, mais beaucoup plus limitée que celle que peut avoir le FMI, pour des raisons différentes. En principe, d'ailleurs, en théorie, ce n'est pas tout à fait vrai dans la réalité, mais pour des raisons différentes. Ce sont des projets de développement. Alors après, on peut discuter la pertinence de ces projets, les éléphants blancs, c'est-à-dire ces grands projets qui n'aboutissent à rien.
Et le fait de pousser encore toujours plus vers plus de mondialisation, qui est vraiment c'est
pas
ce qui a encore été dit par David Malpass récemment.
Bien sûr, surtout par David Malpass. Bien sûr, mais pas uniquement. Il y a aussi, en principe, des investissements de santé. Alors, bien entendu, c'est pas isolé du mouvement de mondialisation, développer des infrastructures, etc. Alors, ceci dit, il y a quand même des arguments. Là, je vais peut-être déclencher la colère de Dominique Plion. Mais c'est vrai que dans les pays en développement, le bilan de la mondialisation n'est pas systématiquement négatif. Il y a un peu passif et un actif.
Si on prend le cas du continent africain, par exemple, on a le sentiment que peut-être que du protectionnisme ne serait pas une mauvaise idée.
Mais le protectionnisme, ils l'ont pratiqué pendant longtemps, le protectionnisme. Je suis pas contre le protectionnisme, mais le protectionnisme a souvent été pas très très bien ciblé dans les pays asiatiques non plus. Mais on a quand même eu une diminution assez forte de la pauvreté dans les pays en développement. Donc tout n'est pas complètement négatif dans la mondialisation. La diminution de la pauvreté en Chine est quand même liée, pas uniquement à la mondialisation. On surestime le rôle de la mondialisation pour la Chine, mais en tout cas a certainement joué un certain rôle. Donc que la Banque mondiale le pense d'une manière peut-être un peu grossière, un peu rapide, qui manque de nuances et d'analyse plus fine, c'est pas non plus complètement étonnant.
Dominique Plion.
Oui, mais je suis pas d'accord avec la grande prudence de Jean-Marc Sirouen. Peut-être que la mondialisation a peut-être joué un rôle dans le développement des pays. Oui, bien sûr, on peut dire ça, ça ne me choque pas. En revanche, ce qui compte, c'est de regarder les effets de l'ouverture des frontières d'un certain nombre de pays africains, en Afrique de l'Ouest par exemple, les pays du Sahel, etc., sur l'alimentation tout simplement, les cultures qui ont été détruites et le fait que l'ouverture des frontières non contrôlées a eu des effets tout à fait négatifs. Et aussi, il faut raisonner pas globalement par rapport à un pays, parce que dans un pays, il y a des classes sociales et il y a des classes qui souffrent de cette ouverture. Par exemple, des agriculteurs qui ne peuvent plus être en concurrence, qui élèvent des poulets, ne peuvent plus être en concurrence avec des importations de poulets venant d'Europe ou des États-Unis, mais et des classes, par exemple, par contre, plus fortunées, qui, elles, s'enrichissent. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de raisonner à l'égard d'un pays en prenant globalement. Ce qui est important, c'est de regarder les effets redistributifs. Et là, je pense qu'il y a eu des effets positifs que vous avez mentionnés, c'est-à-dire le seuil de pauvreté s'est amélioré, enfin, la pauvreté a reculé. Par contre, les inégalités ont fortement augmenté. Donc, c'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé aussi chez nous, d'une certaine façon.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais vous demander peut-être un mot de conclusion à chacun sur le rôle que peuvent jouer encore ces grandes institutions économiques internationales, FMI, OMC, Banque mondiale. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que peut-être, notamment en matière fiscale, la coopération économique internationale semble plus nécessaire que jamais, Marie-Chloé.
Oui, je pense que clairement, l'orientation, s'il y en a une, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut développer des cadres plus cohérents et des mandats plus compatibles entre ces différentes institutions. Vous parliez tout à l'heure de la mondialisation. On n'a pas une organisation internationale aujourd'hui qui irait à l'encontre de ce mouvement de mondialisation. Par contre, vous allez trouver des messages très différents selon l'organisation dans laquelle vous vous trouvez, aussi parce que les systèmes de représentation sont différents, parce que tous les pays n'ont pas la même voix au sein de ces organisations. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut avoir une tendance générale avec des organisations internationales qui vont pousser vers plus de multilatéralisme, plus de mondialisation aussi, mais pas forcément pas forcément de la même manière. Et je pense qu'il faut être sensible aussi à cette variété des multilatéralismes qui sont proposés et prônés dans les organisations du système international.
Jean-Marc Sirouen.
Oui, bon, à la fois, on a des organisations internationales très critiquées, souvent à raison, qui apparaissent assez souvent dépassées. En même temps, il est difficile de se passer de ces organisations internationales. Alors, il faut voir dans le bilan qu'on peut faire et dans le diagnostic qu'on peut faire que ces organisations internationales, en fait, sont pilotées par les pays membres. Et à l'intérieur des pays membres, évidemment, jouent les rapports de force et les jeux de puissance. Ne pas croire, malgré tout, que le système des relations internationales soit complètement bloqué, que le multilatéralisme soit bloqué. On a eu beaucoup d'innovations, hein. La création du G7, la création du G20. Alors, en réalité, aujourd'hui, ceux qui pilotent ces organisations internationales, ce sont les pays, mais c'est aussi le G20. C'est-à-dire que le FMI, là, à l'Assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale, eh bien, ce qui était presque le plus important, c'était la rencontre entre les ministres du G7 et du G20.
Donc un multilatéralisme qui sera à la fois en crise, à la fois en train de se réinventer.
Il se réinvente très lentement, très progressivement, pas toujours très bien, mais il se réinvente.
Dominique Pillon.
Oui, d'accord sur l'idée qu'il faut absolument cesser ce cycle dangereux aujourd'hui de guerre commerciale et de fermeture de frontières, ou en tout cas même parfois de xénophobie qu'on peut voir dans un certain nombre de pays, que le multilatéralisme doit reprendre ses droits. Mais je plaiderais aussi pour que des formes de régionalisme se développent, par exemple en Asie du Sud-Est, ou par exemple en Amérique latine. Il y a eu des tentatives qui n'ont pas encore vraiment abouti, mais je pense qu'il ne faut pas toujours raisonner à l'échelle de la planète.
La Chine a lancé sa banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.
Tout à fait. Et puis l'idée, c'est que quelle que soit l'organisation, il y a deux défis majeurs. Je crois que notre discussion montre qu'on est d'accord. Il y a la dimension sociale, lutte contre les inégalités et la pauvreté, puis la dimension aujourd'hui qui est le défi majeur, qui est la question du climat, qui touche absolument tous les pays. Et donc, il faut absolument que soient intégrées ces différentes dimensions. Par contre, là où je ne serais pas tout à fait d'accord, c'est pour moi, le G7 et le G20 ne sont pas des organismes multilatéraux. 20 pays, c'est 20 pays et c'est pas la planète. Je suis absolument désolé. Et c'est le problème. C'est que précisément, c'est les pays dominants de la planète qui vont prendre des décisions pour les 200 et quelques autres sur la planète. Là, il y a un problème. C'est pas du multilatéralisme.
Alors, on aurait pu continuer ce débat encore longtemps, mais malheureusement, c'est la fin de cette discussion. Un grand merci à tous les trois de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Marie-Chloé, Jean-Marc Sirouen et Dominique Pillon. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages respectifs. Marie-Chloé, Le pouvoir des multinationales, écrit avec Christian Chavagneux, publié l'an dernier aux Presses universitaires de France. Jean-Marc Sirouen, Mondialisation à la dérive, Europe sans boussole. Et Dominique Pillon, La monnaie et ses mécanismes, paru à la découverte en 2017. Un grand merci à tous les trois. Il est 14h53 sur France Culture et tout de suite on retrouve Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives Économiques pour sa chronique éco du vendredi. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et vous souhaitez aujourd'hui revenir sur l'impact du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, oui. Avec le débat budgétaire, c'est en effet le bon moment pour faire le point sur l'impact de ce mouvement. Un an après son déclenchement et se demander en particulier à qui ont profité les mesures prises suite à ce mouvement.
Et alors, en effet, dans quelle mesure est-ce que le mouvement a changé la situation des finances publiques, Guillaume ?
Eh bien, de façon significative. Les recettes publiques seront inférieures l'an prochain de 16 milliards d'euros par rapport à ce qui était prévu il y a un an. Le déficit passera ainsi de 1,4 point de PIB à 2,2 et la France ne respectera pas le pacte de stabilité. Ce laxisme budgétaire a cependant un effet positif sur l'activité. Si la France est un des pays d'Europe les moins affectés actuellement par le ralentissement économique, c'est pour l'essentiel grâce aux manifestants qui ont bloqué les ronds-points.
Mais à quelle couche sociale ont profité ces baisses d'impôts ?
Les mesures prises en 2018 avaient, on s'en souvient, surtout profité aux très riches, alors que les prélèvements sur les pauvres et les classes moyennes augmentaient. Ce déséquilibre massif avait fait bondir, selon l'INSEE, le taux de pauvreté à 14,7% l'an dernier, contre 14,1% en 2007. C'est un record, il faut remonter au début des années 70 pour trouver un taux supérieur. Les mesures prises suite au mouvement des Gilets jaunes, hausse de la prime d'activité, exonération des heures supplémentaires, baisse l'an prochain de l'impôt sur le revenu, ont un peu rééquilibré les choses. L'Institut des politiques publiques a estimé l'impact de toutes les mesures prises depuis 2017, pour chaque pourcent de la distribution des revenus. Le pouvoir d'achat des classes moyennes aurait ainsi progressé de 3 points environ. Les pauvres situés entre le 9e et le 20e centile de cette distribution ont dû se contenter de nettement moins. Quant aux très pauvres, ils n'ont quasiment rien eu et certains y ont même perdu. Les « normalement riches », entre guillemets, entre les 85e et 98e centiles, n'y perdent pas, mais ont reçu assez peu. Ce n'est pas le cas, par contre, des 30 000 ménages les plus riches qui ont empoché chacun 23 000 euros supplémentaires en moyenne. Autrement dit, malgré le relatif rééquilibrage opéré, ce sont toujours eux qui ont, et de très loin, le plus profité des mesures fiscales prises depuis 3 ans. Il faut dire que la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière et l'introduction du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital ont représenté à eux seuls quasiment la moitié des 31 milliards de pouvoir d'achat distribués entre 2018 et 2020.
Donc finalement, Guillaume, est-ce qu'on peut dire que presque tout le monde y gagne ?
Ben pas vraiment, parce que le niveau de vie réel des ménages dépend aussi des prestations non monétaires qu'ils reçoivent via les services publics. Or, les dépenses publiques ont baissé, elles, de 78 milliards d'euros entre 2018 et 2020. Cela se traduit par de graves difficultés au sein des hôpitaux, un système judiciaire qui est toujours aussi engorgé, un système éducatif qui est au bord de l'explosion, un manque aggravé de logements sociaux, des soutiens en net recul pour la rénovation énergétique des logements, etc. Le ministère de l'Environnement, en particulier, devrait perdre encore plus de 1000 postes l'an prochain et ses effectifs auront reculé de 10% depuis 2017. De quoi mieux contrôler les usines CV comme Lubrizol. Bref, les baisses d'impôts ne se traduisent pas vraiment par une élévation correspondante du niveau de vie réel des Français, et notamment de celui des moins favorisés.
Merci beaucoup Guillaume. Et la une d'Alternatives économiques ce mois-ci ?
Donc nous titrons sur Le Monde selon Piketty, un grand entretien avec lui.
Merci beaucoup Guillaume et bon week-end. Se quitte avec Beat Collectif et leur dernier titre Two Hands, sorti ce mois-ci. La semaine prochaine, alors qu'un accord sur le Brexit n'a jamais été aussi proche, retour sur l'histoire économique des îles britanniques. Lundi, nous traverserons la Manche avec les troupes de Guillaume le Normand. Et oui, une conquête qui s'accompagne d'une longue période de prospérité du 11e au 13e siècle. On en parlera lundi à partir de 14h. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.